Alors, on s'aperçoit que chacun des patriarches, la lettre proche des patriarches et à Aaron, est accompagné de plusieurs sortes de rivalités. Je vais schématiser cela sur deux lignées principales, il y en a d'autres d'ailleurs. C'est une lignée d'une identité humaine qui apparaît comme radicalement antagoniste. Et au niveau d'Abraham, nous avons déjà parlé d'eux, qui est l'antagoniste d'Abraham. Rappelez-vous. Vous trouvez vous-même le verset, et ce qu'on a écrit à ce sujet. D'autre part, une autre idée qui est celle de ce que vous avez appelé une sorte d'approximation d'identité, mais qui, à travers l'histoire, va s'instaurer en rivalité historique. Dans la première lignée, celle des antagonistes, peu importe de quelle famille humaine, de quel peuple, de quelle société, apparaît cet antagonisme. C'est un type, un thème d'identité. Je ne veux pas utiliser des termes que vous retrouverez peut-être dans des formulations théologiques classiques, un anti-Israël, laisser ces termes de côté, okay. Mais c'est une sorte d'apparition à partir d'une expérience analogue, d'une expérience existentielle analogue, d'un parti pris d'antagonisme radical vis-à-vis de l'identité d'Israël de ce temps-là. Si vous voulez, une sorte d'antisémitisme, le mot est anachronique déjà, mais d'antisémitisme sans motivation, brutal, viscéral, l'antagonisme pur et simple. L'objectif de Nimrod, c'est de supprimer Abraham. Et d'après le Midrash, c'est Nimrod qui était donc le roi, le maire, le chef de la civilisation de Babel, au temps des fours crématoires de ce temps-là. Je vous rappelle donc ce que dit le Midrash à propos de la famille d'Abraham, qu'Abraham avait été jeté dans la promesse. C'est Nimrod, le Hitler de ce temps-là. Bon, ne faites pas trop d'analogies précises, c'est pire Hitler, mais c'est peut-être pas Hitler. En fait, c'est antagoniste. Tandis que dans la deuxième série, dans la deuxième lignée, et en ce qui concerne Abraham, il s'agit de Lot, qui était type familièrement par rapport à le fils de son frère. Comment s'appelle le frère d'Abraham? Tout le monde a ses noms en plus. Alors là, par ce choix de l'histoire des lignées historiques des peuples qui, en tant que tels, ont instauré leur rivalité à Israël, c'est-à-dire prétendant à l'identité d'Israël d'une certaine manière différente à chaque étape, mais formellement très attendue, c'est-à-dire disputant l'identité d'Israël. Alors nous avons commencé à suivre aujourd'hui un certain nombre d'épisodes de l'histoire de Lot parallèle à l'histoire d'Abraham. J'espère que vous avez au moins lu tous les textes qui les concernent et vous avez l'organisation des chapitres en tête. Alors j'en profite à la convergence de vos études, d'ailleurs c'était un peu avec mes cours, pour maintenant me servir, ce que je n'avais pas fait jusque-là, de la notion du Einyan Eloki, du Telem Eloki, que vous avez étudié dans le séminaire avec le Pélorus. C'est tout à fait normal, c'est toute une série de questions que vous posez à vous à ce moment-là. Quand vous avez découvert ces notions, vous en avez certainement débattu avec le séminaire, enfin, ça peut revenir dans le temps. Si vous avez des questions qui se posent à vous, ne les laissez pas dormir. On les élucidera, point par point. Mais en se servant maintenant de ce vocabulaire de Judas Lévi, il y a donc des approximations de Inyan Eloki. C'est-à-dire, si parfois le Inyan Eloki va passer dans Abraham, va émerger chez Abraham, alors il y a quand même, dans cette famille d'où sort Abraham, et qui est dans la matrice de cette identité, il y a quand même une identité analogue. Il y a quand même, en potentiel, une identité approximative de ce que peut être Inyan Eloki. Est-ce que c'est clair? Tout le monde comprend bien Einyan Eloki. D'abord, parenthèse. Comment vous avez traduit cela, Einyan Eloki? D'abord qu'on soit certain de parler de la même chose, il n'y a pas de très Ça, c'est une des fonctions. C'est une des fonctions. Mais traduisez-moi le terme. Et il vous a dit ça dans la description du divin.
Non. Il n'a pas traduit.
Alors je vais vous traduire. Oui, faites attention à ces approximations de traduction. Ça, ça va chercher dans notre univers philosophique très très éclairé. Perception du divin n'avance rien. Vous savez, quand vous avez des séminaires de ce genre, et quand vous envoie des termes, par exemple, le professeur pour lui, ça va de soi que vous savez ce que ça veut dire. Alors, si vous ne savez pas, faites-le traduire tout de suite, et en sorte d'assurer votre pensée. Alors, je connais deux sens. Ça va peut-être recouper ce que vous avez appris à ce sujet. Aignan, qu'est-ce que vous avez dit d'abord? Un sujet. À propos de Aignan, un sujet. Okay. Alors, ici, il faudrait traduire l'objet. Aignan Ayoki, l'objet divin dans le projet de la création. C'est-à-dire, littéralement, le mot le plus précis en français serait le souci. Dans le sens de l'intérêt. Quelque chose d'intéressant, ça se dit, mais alien. Les aliens s'intéressaient. Aignan, c'est avoir intérêt pour. C'est le projet du créateur, un souci, un intérêt, que quelque chose émerge dans la création, que quelque chose apparaisse dans la création. Aignan, c'est-à-dire l'objet du créateur. Ce que le créateur voulait créer à travers ce qui se passe dans l'histoire du monde. Je vous emploierai très souvent ce terme de émerger. Ça peut être en potentiel pendant très longtemps. Pas n'importe où, ça se prépare quelque part. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans une certaine matrice d'identité, dans ce cas, c'était la famille d'Abraham. Et la famille d'Abraham, c'est pas rien, même si les membres de la famille pourraient être d'une certaine manière disqualifiés par rapport à ce critère de l'union analogique, c'est pas n'importe qui est disqualifié. C'est ce qui aurait pu être ce qu'Abraham est devenu, mais ils ne le sont pas devenus. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et nous verrons ici un principe important, qui nous servira d'ailleurs en particulier le fil conducteur dans les théories, qui est la suite de ce problème, c'est que précisément celui qui était le plus proche, qui va être le plus loin, jusqu'à la fin des temps, il reviendra d'un coup. Vous tenez bien ce thème, on va le rajouter. C'est-à-dire les antagonismes les plus violents sont entre les identités les plus proches. Précisément parce qu'elles ne sont qu'approximativement proches. Mais vous pouvez jouer sur les mots en français, proximité, approximation. Proximité, c'est le caractère positif. C'est pas n'importe qui n'est qu'une approximation. C'est celui qui était proximal. On dit ça, proximal. Et approximatif, c'était parce que c'était un peu trop athée. Et bon, vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez une précipitation. Bon, alors je vais finir. Donc, Aignan Ayoki, c'est le souci du créateur. Est-ce que c'est ce que le créateur cherche dans l'histoire de la création? Bon. Et pourquoi il ne le fait pas d'un coup? Parfait, son avis au début de l'année. Vous parlez de ça? Oui, c'est-à-dire une autonomie de la créature, et à travers cette autonomie, c'est la créature qui mérite l'aide que le créateur veut lui donner. Par conséquent, il y a un projet, mais les tentatives de réaliser ce projet sont données à l'autonomie humaine. Et dans cette autonomie, il peut y avoir l'échec. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est en tout cas le premier stade. Comment on va récupérer les échecs? Ça, c'est le problème messianique qu'on verra après. Et d'abord, dans le premier stade, nous allons voir que Lot, donc le neveu d'Abraham, entre dans ce messie avec une très grande dignité. Nous connaissons la suite, mais si nous ne connaissions pas la suite, donc on ne saurait pas par qui finalement cette ligne du Aignan Ayoki qui finira par passer. Ou par Abraham, qui s'appelle encore Abraham, ou par Lot. Ces deux personnages sont au point de départ de la même aventure. Et on va voir ce qui arrive de l'autre et pourquoi il échoue. Mais ce n'est pas n'importe qui a échoué. C'est ce que je voulais situer ici. C'est vrai? Dans cet exemple. Deuxième sens du Aignan Ayoki est plus difficile à comprendre. Je vais vous dire, comme ça, un peu sous forme de postulat, vous y réfléchirez, on y reviendra précisément. C'est. Il y a corollaire du premier. Le premier sens, c'est l'objet du créateur dans sa création, dans sa créature. Aignan Ayoki, ici le terme de Eloki, l'adjectif Eloki, divin. Renvoie à Dieu lui-même, en tant que créateur. Okay. D'autre part, il y a plus, non, exactement dans les mêmes mots, Enfin, il y en a érotique, c'est-à-dire l'être que Dieu veut donner à sa créature, en fin de compte, est appelé divin. Dieu crée Dieu. C'est-à-dire par où passe l'identité divine dans ce sens-là. Mais ici, l'adjectif divin va être corollaire de la créature. Il n'y a rien à l'autre. Le propos divin, c'est-à-dire le fait de devenir l'autre. Bon, et j'entends dans votre silence que vous êtes un peu surpris. Alors je vais expliquer un peu. J'imagine que vous. Pourquoi nous en avons gêné? Parce que énormément d'idolâtres, énormément de paganisme ont attribué la divinité à des êtres de créature. Et ça, c'est le paganisme. Bon, alors laissons tous les paganismes de côté, et puis on va aborder le problème du point de vue de l'enseignement de la Bible. Je vais changer de vocabulaire. Au lieu de dire Dieu, l'homme, le créateur, la créature, je vais parler de l'être. L'être du créateur est un être absolu. Et par conséquent, s'il veut donner l'être, c'est l'être absolu qu'il veut donner. Donc cet être absolu, il faut le conquérir, le mériter à travers mille difficultés. Mais en fin de compte, il y aurait, si vous voulez, un contrat blasphématoire entre l'infini de l'être absolu qui veut me donner l'être et une fatalité de l'être fini qui serait l'être de créature infiniment. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Même si les mots sont difficiles. Je vais vous expliquer le Bengag et ce simple commentaire. Maintenant, je vais vous faire un commentaire. Et qu'est-ce que c'est un commentaire? Il faut entendre ce mot en deux mots. Commentaire. Ces choses-là, bien sûr, on ne les comprend que quand on les comprend. Et quand on ne les comprend pas, il faut les taire. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup de commentaires. Bon, je pense que c'est clair. C'est que l'être que celui qui est Dieu veut donner à sa créature, en fin de compte, sera un être divin. Est-ce que c'est clair? Prenez ça comme postulat. Si la définition de l'être créateur, c'est de donner l'être, alors la dignité de l'être créateur, c'est de donner un être vrai. Et ça, c'est le projet du Aïnien Aïdoki, dans les deux sens. Et on va rencontrer, déjà dans le récit cette année, qu'un certain nombre de personnages de l'histoire biblique ont été appelés d'une certaine, nommés d'une certaine manière, Elohim. Par exemple, à un certain moment du récit, Abraham sera appelé Nessi Elohim Atabekelim. Ou bien, plus tard, dans l'Exode, je pense qu'on n'y arrive pas au moment de Shavuot, Moïse sera appelé Ish Elohim. Déjà, d'une certaine manière, l'acquis d'une de ces dimensions de ce qu'on appelle dans le livre de l'adjectif divin. Divin en tant que créature de Dieu. La créature authentique du Dieu authentique est dite Elohim, divine, puisque Dieu est le Dieu authentique en tant que créature. Bon, je vous ai dit de mille manières, je pourrais vous le dire de cent mille manières. C'est le but. Il y a un projet de donner l'être à la créature, mais un être vrai. Et quand on arrivera à l'histoire de Moïse, on verra que Moïse a atteint ce niveau d'être. Mais ça a un sens tout à fait différent que ce même mot employé dans les vocabulaires du paganisme ou de l'histoire. C'est-à-dire que ce terme de Eloki va être un adjectif qui est, en exposant à celui qui est Dieu en tant que créateur et à celui qui est la créature en tant que créature. Prenez-le comme un livre, non pas comme substantif. Et c'est le sens qu'il a dans le vocabulaire du judaïsme. Il y en a une. Est-ce que c'est clair? Je vous signale une phrase que j'ai trouvée dans l'histoire de la philosophie, mais qui a un sens païen encore. Bien que ce soit un juif qui l'ait dit, c'est dans la philosophie de Bergson. Où Bergson définit, mais sans guillemets, l'univers est une machine à faire des dieux. Et il met ça au plus. Eh bien, il y en a une intuition biblique très, très, très fondamentale. Malheureusement, l'expression est païenne. Et lorsque nous aborderons l'histoire de Moïse, l'identité de Moïse, nous verrons qu'il s'agit de la créature étant arrivée à rejoindre le projet du créateur, à le réaliser dans son être. Alors ça s'appelle Elohim. C'est à la hauteur de celui qui est Dieu créateur. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on rejoint là? L'intuition qu'on a eue tout au départ, que l'état de ce monde-ci ne peut pas correspondre au projet du créateur. Il y a un trop grand contraste avec la définition de l'idée de Dieu créateur et l'état du monde. C'était le point de départ de l'expérience d'Abraham. Il y a une insatisfaction de la conscience biblique, de la conscience hébraïque, tant que le monde n'arrive pas à être au niveau de dignité qu'on puisse dire c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Est-ce que c'est clair? Voilà, vous avez compris l'idée, maintenant. Bon. Ça pourrait organiser là toute une série de notions que vous apprenez de notre part dans nos études, dans notre cours. C'est que, dans l'ordre des propositions messianiques, quand nous disons ce monde-ci, alors ce monde-ci est nécessaire, dans le sens strictement philosophique du terme, il est nécessaire qu'il existe pour l'étape de monde, mais il peut être provisoire. Parce que ce ne peut pas être le dernier mot de l'histoire de la création. Il y a un trop grand contraste avec la définition que nous faisons et que la Torah nous révèle de celui qui l'a créé. Donc ça peut être un stade transitoire, nécessaire mais transitoire. Qu'est-ce qui s'acquiert dans le progrès à travers ce transitoire? Vous l'avez bien évoqué. Alors je prends la formule de départ qui vous avait secoué. Dieu crée Dieu. Mais le premier mot Dieu a incarné, le premier mot Dieu a incarné. Alors faites bien attention, ne vous prenez pas déjà au début. Parce que la suite du cours se passait à l'asile. Mais c'est clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans quelle direction d'enseignement nous devenait cette notion de Eyanel. Il y a deux niveaux. Premier sens. Le souci de Dieu créateur dans sa création, et deuxième sens, corollaire, ce que la créature doit réussir pour être ce que le créateur voulait lui donner. L'être vrai, ça s'appelle Elohim. Et l'être vrai, c'est bien sûr tout le contraire de cet être dans la masée, dans toutes les dimensions. Je ne vais pas employer des mots qui nous renverraient à des analyses linguistiques trop compliquées pour le début, parce que ça fait partie de registres d'autres langues. Parfait, imparfait, fini, infini, mais ça va un peu dans ce sens. Bien. Par exemple, le problème de la mort. Il est bien évident que la mort définit l'être dans la masée. Mais c'est en contraste absolu avec l'idée de Dieu. Et par conséquent, l'être vrai que Dieu veut nous donner est un être éternel, un être immortel. Donc nous sommes dans un rôle amasé qui est antichambre, préalable, provisoire, nécessaire, il faut passer par là. Mais ce n'est pas le vrai monde que Dieu a voulu créer, c'est en trop grand contraste avec l'idée du créateur. Est-ce que c'est clair ce que je vous montre? Ou bien, en particulier, bon, ça suffit quand même. Alors, ce que nous suivons dans l'histoire des Salados, c'est le développement à travers l'histoire de l'engendrement de l'être qui va d'étape en étape dans la plus grande réalisation du Eyanel. À un certain moment, cette identité humaine est nommée Israël. Vous voyez pourquoi la Torah a tenu de nous faire débuter cette histoire par le premier homme. Quelles sont les grandes étapes du Eyanel que j'ai fait dans le séminaire avec le Kudari? Adam, Yahamara, Chut, Adam, Chef, Noir, Ever, Abraham, et bon. Et toutes les lignées d'encontrement entre, c'est comme vous êtes bien sûr. Est-ce que, je vais en parler dans notre vocabulaire. Vous connaissez ce vocabulaire qu'on entend en génétique, dominant et récessif? Bon. Eh bien, la lignée qui peut apparaître de façon dominante dans une génération est récessive dans d'autres générations. Bon. C'est les termes que vous envoyez? Non, vous pouvez vous comprenez de deuxième manière. Par exemple, on arrive à Terah, qui est le père d'Abraham. Mais Terah n'est pas n'importe qui, puisque c'est à travers lui que la Yana Eloki, depuis le premier homme, est passée jusqu'à Abraham. Chez Abraham, ça va éclater de façon dominante. Chez Terah, il y a la Yana Eloki. mais de façon réfléchie, cachée. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, on peut rejoindre là le problème d'Abraham et Lot. Lot est, si j'ose dire, concerné par la Gnanayoki. Le texte, vous le reverrez, le nomme de façon très précise dans les premières étapes de son histoire parallèle à celle d'Abraham ensuite, il se sépare. Okay. Mais, très rapidement, nous voyons que ce n'est qu'une approximation formelle. Disons que c'est un quasi et Gnanayoki. Comment vous diriez sans hébreu? Il faut dire avec beaucoup de haine. Bon, c'est ce haine qui va apparaître avec nous. Voilà donc la première notion. La deuxième notion importante, et vous me direz si c'est suffisamment clair, sinon on n'en a pas, c'est que jusqu'au patriarche d'Israël, jusqu'au avos d'Israël, bien, la Gnanayoki apparaît de façon réalisée, mais il y a tous les degrés. Possible. Vous comprenez pourquoi? C'est un projet, et puis on est d'étape en étape jusqu'à ce que ce projet se réalise vraiment, l'identité messianique. Eh bien, jusqu'au roi d'Israël, il y en a qui apparaît chez des individus. Okay? À partir d'Israël, c'est une collectivité qui le représente. Vous comprenez bien? Et ce que vous avez dit tout à l'heure, là, je retiens une des choses que vous avez dit, la fonction prophétique. Est une des dimensions des Gnanayoki. Essayez d'imaginer d'autres dimensions, on va essayer de confirmer ou confirmer. Et après, vous me direz, peut-être pas aujourd'hui, mais vous me direz, mais qu'est-ce que c'est ça, la fonction prophétique? On parle avec des mots. Et qu'est-ce que ça représente, la fonction prophétique? Alors, la fonction prophétique, imaginez autre chose. Rappelez-vous, ceux qui ont déjà étudié l'histoire de Moïse, l'identité de Moïse. Bon, la prière est corollaire à la fonction prophétique. C'est-à-dire la capacité. Oui, ça nous a montré au début. Et je l'ai dit un mot tout à l'heure, ça veut dire une phrase. L'éternité. C'est une des dimensions de l'identité d'Israël qui nous frappait plus peut-être que la dimension prophétique qui est encore peut-être un peu au-dessus de ce que ça veut dire, cette capacité prophétique de l'être d'Israël et qui se révèle, se dévoile chez tel ou tel individu d'élite qui sont les prophètes historiques que nous avons eus, mais dont la capacité prophétique exprime la capacité prophétique d'Israël comme être collectif. Vous voyez? Eh bien, c'est cette dimension d'éternité qui est une donnée d'expérience immédiate dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est exactement être prophète? Nous n'avons plus l'expérience depuis quand c'est l'arrêt de la prophétie. D'accord, 2600 ans. Ça ne veut pas dire que cette fonction prophétique d'Israël a été coupée, mais occultée. Vous comprenez ce terme? Cachée, enfouie. Elle est là, mais elle est enfouie. Il y a des conditions pour qu'elle se restaure. Peut-être nous sommes en train de vivre ces conditions-là. Vous savez, on a étudié ce problème, quand on a étudié le problème de la diaspora. Okay? Mais ce qui nous frappe, c'est effectivement cette dimension qui s'appelle Netzach. Et qui est d'ailleurs la qualité donnée par le texte biblique à l'identité de Moïse. C'est Moïse qui représente cette dimension de Netzar Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Netzar en hébreu? Victoire aussi, c'est deux choses. Nitzaron, c'est la victoire. Et Nitzriut, c'est l'éternité. Et le substantif Netzar enferme ces deux sens. Victoire de quoi contre quoi? Pourquoi c'est deux mots pour le même mot hébreu, victoire et éternité? Qui t'a dit?
Victoire des forces du bien contre le
mal. Voilà. Comme ça. La vie contre la vie. La vie contre la vie. Moi, je suis génial. J'essaie de comprendre tout de suite, rappelez-vous pour la définition. De comprendre tout de suite pourquoi c'est le même mot qui va dire aussi éternité. Vous Tout ça n'est pas faux, ce que vous dites, mais c'est très partiel. Et c'est surtout, comment dire, littéraire.
La victoire sur la conciliation.
Tu parles comme Victor Hugo dans la Légende des Siècles. C'est un humain. Non, c'est pas ce problème-là. Regardez, je vous donne une définition de quel est le contenu de cette idée de victoire qu'il faut comprendre tout ce que je fais. Pourquoi ça veut dire éternité? C'est la victoire de l'homme contre le temps. C'est la victoire. Mais tout se passe comme si, dans notre monde, il y a une lutte entre le nefesh, la personne humaine, et le temps. Alors, si le temps triomphe, il y a la mort. Et si la personne triomphe, il y a l'éternité. Or, toutes les civilisations ont succombé au temps. Sauf Israël. Quel que soit les hauts et les bas. Les hauts et les bas. C'est comparé par le Midrash aux phases de la lune. Vous comprenez pourquoi la lune va jouer un grand rôle dans le calendrier hébraïque, dans les principes du calendrier hébraïque. C'est-à-dire, pendant que l'histoire des civilisations se succède à la manière de la nuit du soleil, nous avons appris cela. Bon, vous avez sur le mirage. Pendant ce temps, le temps d'Israël, qui est à la manière des phases de la lune, traverse toutes les civilisations. Et c'est ce qui est appelé Netzach Israël. Mais ça, c'est une donnée d'expérience. Quelles que soient les explications qu'on essaye de donner en sociologie, en technologie, en histoire, à ce phénomène est plus qu'étonnant de la permanence de l'identité d'Israël à travers toutes ces phases de progrès, de regrets, de degrés, de sous-degrés, eh bien, ça ne fait que masquer le problème reste dans l'existence. Il n'en reste pas moins que depuis Abraham jusqu'à nous, l'identité d'Israël a traversé le temps des civilisations, mais pas l'Israël. Donc vous voyez bien que dans ce propos du Hénianagot, il y a une dimension d'éternité qui est expérimentale. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on a qu'à reprendre toute l'histoire juive, toute l'histoire hébraïque, l'humanité entière a essayé d'assassiner ce divin enfant. Et puis, il est inassassinable. Et le temps a une forte érosion dont vous n'avez aucune idée. Par exemple, un problème comme celui de l'assimilation, c'est la victoire du temps sur la personne. Et ça va vite, en quatre générations. Déjà, le petit fils dit de son grand-père, « Ah, mon grand-père, un saint homme. » Tous les grands-pères sont des saint hommes, vous avez remarqué, c'est un bon jour. Mais déjà, là, le petit fils n'est plus combat. Il ouvre le dictionnaire à la bouche pour savoir qu'il est saint fils. Et c'est ce que dit M. Dami, jusqu'à la troisième et la quatrième génération, pas plus avant le manque. Vous voyez à quel point le temps est fort, si on le laisse fonctionner. Alors il transforme, il altère, il détruit l'érosion du temps et une chose considérable. Et voilà que l'identité d'Israël, Nefesh d'Israël, a été plus fort que le temps, parce qu'il est le véhicule de l'Israël.
Et à cause de l'histoire?
Ça, c'est les communes, je ne vais pas dire les moyens, donc les facteurs. Hein. Mais même sans les mythos, il y a une alliance avec le Hénianagot. Cette alliance implique qu'on abandonnera jamais les mythos. Mais c'est l'alliance qui fait que les mythos sont efficaces. Parce qu'il y a énormément d'hommes ont joué à imiter les juifs, à s'inventer des mythos inspirés de la Bible. On disparaît quand même. Et ça, c'est un problème aussi. Mais, oui, le Hénianagot a différentes dimensions, plusieurs dimensions d'identité. Il y a 13 forces différentes. On n'en parle que de deux mêmes. La fonction prophétique et la dimension d'éternité. Je vous donne un exemple. Ce qui s'est passé en Russie ces dernières années, la civilisation marxiste avait fait tout ce qu'elle avait pu pour déjudaïser les juifs, et ces mêmes juifs qui pratiquaient plus les mythes aujourd'hui réapprennent l'hébreu dans la clandestinité, avec le risque d'aller en Sibérie. Pour les empêcher d'aller à l'Israël. Et voyez ce qui se passe. Il y a quelque chose de mystérieux pour les lois habituelles des sociétés humaines. Netzach Israël. C'est ça l'Israël. Mais vous rattacherez ça à la notion d'alliance. Il y a une alliance entre le Créateur et la créature par qui passe ce Hénianagot. Et toutes les alliances vont être renouvelées chaque fois que d'étape en étape, c'est dans telle lignée que passe la suite du Hénianagot. Est-ce que c'est bien que cela? Bon, Quelles sont les questions qui se sont posées à vous à ce sujet? Et nous illustrons cela pour aujourd'hui par Lot et Abraham. D'après vous, quel est le critère qui sépare les approximations de votre doute dans cette histoire de Yannagou? Par exemple, vous avez eu l'histoire de Lot. Quel est le critère qui fait que Lot est disqualifié? Et encore une fois, rappelez-vous, il est mis en réserve. Et, comme disait Deborah Pompidou, en réserve de l'éternité. Et il est en réserve de l'éternité. Et puis cette réserve nous coûte cher, parce que descendance, Moab, Amon, rivalité contre Israël, et à travers l'histoire, ça n'est pas fini. Je vous ai parlé de ça, à vous, la Jordanie. Comment s'appelle la capitale de la Jordanie? La Batamon. Bon. Et alors, ça va s'arranger dans quelques années, mais comment, on ne sait pas, à quel prix, on ne sait pas. Alors, d'après vous, quel est le critère qui disqualifie les approximations de Yannagou? Ça veut dire que Lot aurait pu être un abat. Et il y a tout à le droit de raconter cette histoire au point de départ de façon très claire. Voilà, il y a deux partants à la course de Yannagou. Et une grande, une course de relais. Et voilà que Lot, à un certain moment, est disqualifié. Il capote quelque part. Bien. Où? Sur quel critère?
Sur la moralité, mais une pareille. Il est proche et l'époque.
Très bien, sur la moralité. Dans une référence à lui. Très bien, c'est la
référence. Ces bergers.
Très bien. Très bien. Vous vous rappelez du texte?
Pas trop.
La querelle des bergers? Bon. Alors, vous voyez, une troisième dimension qui apparaît. La capacité morale. Et on peut avoir les autres dimensions. C'est-à-dire que la forme du lien est l'autre, s'il n'y a pas la morale. Je rappelle avoir entendu une fois une phrase de M. Lévinas. Vous connaissez M. Lévinas?
Oui.
Qui a été son élève d'Arbre. Qui disait, dans cette histoire, Abraham et l'autre, Abraham c'est le juif, et l'autre c'est le salut. Bon, je lui laisse apprendre un peu de cette calomnie. Pourquoi calomnie est juif? C'est un problème. Mais c'est à peu près ça. C'est une espèce de forme vide de l'essentiel. Mais formellement, ça ressemble et ça trompe et ça trompe quelques éléments. Vous voyez, c'est le truc. Et on se trompe. Je dirais que de cette manière, au fond, ce qui se cherche là, quatrième dimension, c'est l'identité frère. L'identité capable de fraternité. Vous vous rappelez, qui va ressusciter à elle? Vous vous rappelez de ça? Bon, il y a les frères et il y a les faux frères. Et les faux frères, ça ressemble à des frères. Une espèce de capacité formelle de la fraternité, mais l'essentiel manque. Ce que j'ai appelé la moralité dans le sens. Et l'authenticité morale. C'est vrai. Quelqu'un peut donner un autre exemple où il se dévoile effectivement, c'est la moralité qui manque. Chez l'autre. Elles sont en fin de compte, parce qu'au début, un compte. À propos de cette scène que nous avons vue, Abraham dit à Lot, on va se séparer. Qui Anachim, Achim, Anachim. Parce que nous sommes des hommes frères. Vous avez du verset? Rachid tout de suite explique, nous nous ressemblons comme des frères. Comme des faux frères. Nous avons cette capacité d'être frères, mais...
En second degré.
Non. Quand on voit Lot, voilà comment on dit Midrash. Quand on voit Lot, on croit voir Abraham. Quand on voit Abraham, on croit voir Lot, c'est dangereux, parce que Abraham et Lot, c'est plus les mêmes liens. Alors formellement, ethniquement, culturellement, politiquement, spirituellement, ça ressemble, mais c'est déjà plus rien à voir. D'un côté, parce qu'il y en a une autre, de l'autre plus. Et pourquoi? Parce que la moralité n'est pas assurée. Vous voyez quel est le sens du contexte de ce que nous racontons? Vous avez énormément de sociétés qui s'appellent frères entre eux. Des francs-maçons, des franciscains, des frères, frères, faux frères. Hein? Disons que c'est la société où cela se cherche. Et on voit que, à chaque étape, apparaissent des sociétés de type l'homme. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est l'existence de deux types humains qui, formellement, ont la même définition, Mais dans le contenu, c'est différent. Alors, quel est le critère principal? C'est la place de la moralité en tant que loi, en tant que statut de l'histoire.
Est-ce qu'il y aura d'aller à un homme? Est-ce qu'il y aura d'aller à un homme? Il savait très bien que c'était une vie.
Alors, essaye de plaider le dossier. Non? Et on va jouer Abraham et Lot. Alors, Abraham va approcher, alors, sûrement, c'est là-bas que tu l'as. Alors, essaye de plaider ce que dirait Lot.
C'est
là
qu'il y a la même chose?
Oui.
Lot dirait justement là-bas que tu l'as.
Pourquoi?
Pour les aînés.
Pour les aînés.
Pour les pauvres être un exemple.
Allez, voilà. On va formuler ce dossier. Il faut sauver les ennemis. Et alors, plaisir, là, qu'est-ce qu'il y a déjà? Essayez de montrer, je.
Non, Yosef.
L'ambiguïté. L'ambiguïté. Pas toi, là, quoi. C'est bon, plus tard.
Non, il a choisi
la
religion
parce qu'elle est. Comment? Ah non, c'est bon. En fait, ça, il a le droit d'installer une communauté juive en Amérique. Seulement, il s'en va à Hollywood. Oui, il y a une ambiguïté, une ambivalence. Et Abraham va protéger l'autre jusqu'au bout. Peut-être que tu es ce sadique héroïque qui peut aller jouer son rôle à l'enfer, dans l'enfer. Moi, je peux être comparable. Admettons. C'est pas exactement comme ça, mais admettons. Qu'est-ce qu'il y a dans cet engagement de l'autre? Est-ce que vous n'entendez pas cette ambiguïté, cette ambivalence? Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Sauver les criminels.
Oui,
on va écouter. Non, c'est des images que j'essaye de formuler. Bon, être amen à Hollywood, c'est être amen, mais à Hollywood.
Ah, non,
non. Répète quelque chose maintenant. Il va pas. Vous entendez ce que je dis? Non, c'est sérieux ce problème. C'est sérieux ce plaidoyer. Hein? Mais énormément d'hérésies du judaïsme sont tombées là-dedans. Et en particulier une qui est très grave, qui s'appelle le sabbatéisme. Vous avez peut-être entendu parler, dont je parlais un jour, après une coupe, après que. C'est-à-dire une espèce d'attitude qui consiste à dire, mais pour vaincre le mal, il faut le vaincre avec ses propres forces. Je vous donne une image militaire. Et quand on parachute des soldats derrière les lignes ennemies, et avec l'uniforme de l'ennemi, vous prenez l'ennemi à revers. Bon. Alors ça veut dire qu'on va se déguiser en mal pour pouvoir vaincre le mal par le mal. Mais peut-être c'est qu'on aime. Je crois pas que l'analogie. Je sais pas comment vous dire, mais je le sens. C'est une analogie qui ne marche pas. L'idée est jolie, mais l'analogie ne marche pas. C'est pas bien. Ça veut dire va essayer de tromper l'ennemi. Je veux dire, les fondateurs du christianisme, ça a été la révolution. Un autre exemple. Comprenez comment? On va devenir romain, on va judaïser Rome de l'intérieur. Ils se sont fait romaniser. Et d'ailleurs, les rabbins, à l'époque, ont interdit cela. Une secte juive qui attendait ça. On ne peut rien contre Rome face à face, on va les prendre à l'envers. On va aller à Rome et on va les judaïser de l'intérieur. Ben, ils se sont fait romaniser tout de suite. Vous avez compris? Et ça veut dire que c'est très ambigu, c'est très ambivalent. Et puis, les chassidus ont donné l'enseignement suivant. Si quelqu'un, si tu entends dire que quelqu'un est tombé dans une citerne pleine de serpents et de scorpions, que tu vas le laisser dedans, ça c'est Sodome et Gomorrhe, tu vas le laisser dedans. Il faut que tu descendes et le sauver. Oui, non, attache-toi à une corde. Si tu descends sans accord, c'est que tu aimes les scorpions. C'est la tour. Alors l'autre, c'est pas attaché à la corde. De la main de Louis. Vous avez compris, vous l'avez dit. Bon, vous avez compris le problème. C'est-à-dire, c'est une image très importante. Il faut tendre la main à celui qui est tombé en vue, mais ça s'accroche à la margelle. Alors, celui qui ne s'accroche pas à la margelle, c'est le signal, c'est le signe qu'au fond, bon, il y a une ambiguïté jusqu'à la fin de l'histoire. On va protéger l'autre pour savoir, peut-être qu'il est ce héros-là, mais peut-être qu'il n'est pas. C'est la fin de l'histoire qui nous dit. C'est clair. Qu'est-ce que vous ajoutez ?
Ça
va plus. Par exemple, il m'est arrivé pour mes études avant d'étudier cette période, peut-être qui fait la littérature sur le français, cette période des abbés de cour. Imaginez, les abbés de cour. Imaginez ce genre de personnage ecclésiastique, abbé de cour. Alors, c'est la même chose, c'est l'autre. Il me dit, bon, mais je vais aller là-bas. Là où il faut porter la bonne parole, le message, etc. Ça trompe, finalement. Mais quel est l'ambivalent ? Tom. Bon, alors on a énuméré déjà 4 critères du
Yannel.
Mais vous voyez, comment ?
L'accord, c'est
d'être attaché à la femme. Et puis, on va voir la scène tout à l'heure, le point de départ, c'est la cabane des bergers. Qu'est-ce qui se dévoile là ? Que la Torah de l'autre, c'est pas du tout la Torah de l'Ouam. Ils ont la même capacité d'être frères, les deux ont des bergers, pour appeler à l'air de berger la fonction frère. Mais au point de départ, le code n'est pas le même. Et quelle est la différence, encore une fois, la moralité ? Et je vous dis, la moralité n'a plus d'élémentaire. Les valeurs morales, ça commence par des choses très simples. Et ces choses simples qui, lorsqu'elles sont frelatées, ambiguës, ambivalentes, qui se dévoilent par la suite comme étant un abîme de différence de temps. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a confié à une usine de fabriquer la poutre maîtresse d'un pont. Okay. Et puis voilà que un ouvrier, une toute petite négligence, rien du tout, une bulle d'air toute petite. À cause de cette bulle d'air, le pont va sauter et puis il va y avoir des catastrophes. Une toute petite faute. Et c'est là que ça commence. C'est-à-dire celui qui a laissé une bulle d'air dans la poutre d'acier est responsable de la mort des gens qui vont mourir si le pont saute. Vous voyez comment ça marche ? Une toute petite chose au début. C'est-à-dire, il va pas nous bien ça. La moralité, c'est un grand mot, parce qu'il y a tout le code moral et c'est énorme. Et ça commence par les choses de plus. Et ça s'appelle, et c'est la vertu de la femme, ça s'appelle quoi ? Ces choses élémentaires, par quoi commence toute moralité ? C'est-à-dire, avant d'aller dans les grands mots, la gentillesse, tout ça. Une chose très claire. Et si là, ça va plus, alors le jugement de la mise à la vie va juste tomber. Et c'est une crapule. Quoi ? J'ai pas été gentil alors je suis une crapule. C'est là que ça commence, c'est là que ça commence. Vous avez compris ? C'est clair ? Alors, tout de suite, le jugement est important. Bon.
Moi, je
me rends compte que
c'est
le bonheur
qui
va mourir. Bien, alors on a énuméré la fonction domestique. Qui veut dire quelque chose à la fonction domestique ? Vous n'avez pas suffisamment de choses déjà pour faire avoir une idée. Alors, je vous dirais une chose simple pour commencer, petit chef gentil. C'est comprendre l'histoire. Le prophète est celui qui comprend. Et parce qu'il comprend l'histoire, Dieu peut lui révéler ses intentions. Et quand je dis l'histoire, ça veut dire l'histoire, que moi je veux. Étant donné ce qui se passe maintenant, si rien ne change, voilà ce qui va se passer demain. Ce n'est pas la prédiction, rien à voir. Le prophète est un demain. Vous comprenez la différence ? Alors vous comprenez qu'il y a des faux prophètes. Il y a des prophètes faux. Il y a des hommes capables de comprendre l'histoire, mais faux. Ce concept de faux prophète, mais lui, c'est prophète de mensonge. Les deux mots sont autant que prophète et de mensonge. Et quel est le critère entre un vrai prophète et un faux prophète ? Encore une fois, la moralité. Qu'est-ce que j'ai ? Exact. vous donner un exemple pour éclairer cela. Il y a dans l'histoire que nous voyons dans la Bible un homme dont on nous dit qu'il avait la même envergure prophétique que Moïse et peut-être plus.
Bilam.
Et quelle est la différence entre Moïse, un prophète de vérité, et Bilam, un prophète de mensonge? La morale. Alors, je vais raconter un enseignement encore de Kevinas qui me revient. On va voir ça dans le texte. Le texte nous dit que Bilam était Nofel ou Glur Enaim, c'est-à-dire tombé par terre, à plat ventre, et ses yeux s'ouvraient. C'est-à-dire, pour prophétiser, il devait entrer en transe. Et lorsqu'il entrait en transe, il était à plat ventre. Rachid cite le Midrash, et il dit, parce qu'il avait honte, parce qu'il n'était pas circoncis.